France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives, des solutions et des gens géniaux dans le Val d'Oise cette semaine, département de la région parisienne. Aujourd'hui, je donne la parole à deux associations. La première distribue des colis alimentaires aux sans-abri et aux familles démunies. La deuxième veut transmettre le virus de la lecture dès le plus jeune âge. Elle organise des ateliers parents-enfants et elle s'installe avec plein de bouquins au pied des immeubles. Vous connaissez la devise de cette émission. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Voici une association humanitaire qui offre des colis alimentaires et des plats cuisinés aux plus démunis et aux sans-abri. Elle s'appelle Réseau. R-E-S-O, diminutif de les réseaux solidaires. Et la façon dont elle est née est une très belle histoire. Bonjour Anaïs Lazare.
Bonjour.
Vous êtes à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, présidente de Réseau. Racontez-nous comment tout ça a commencé, s'il vous plaît.
Eh bien écoutez, c'était pas du tout prévu au programme de ma vie. On s'est retrouvés au tout premier confinement, où mon ami Karim, sachant que j'adorais cuisiner, m'a demandé si je voulais cuisiner pour un hôtel social. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un hôtel social. J'ai accepté. Dans ma petite cuisine, j'ai réussi à concocter 100 repas, donc c'était des spaghettis bolognaises. Et puis ensuite, je l'ai accompagné à la distribution. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu ce que c'était qu'un hôtel social, que j'ai vu tous ces enfants qui vivaient dans cet hôtel avec rien autour, au milieu d'une zone industrielle, je me suis dit, je vais recommencer. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux et là, il y a eu un gros boom sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, les gens venaient à ma fenêtre pour me déposer des denrées alimentaires. Du fait du confinement, ils étaient obligés de passer par ma fenêtre. Et du jour au lendemain, mon appartement est devenu un genre d'épicerie. On pouvait plus circuler tellement il y avait de pâtes, de riz, d'huile partout chez moi. Et monsieur le maire nous a mis à disposition des locaux à la maison de quartier à Saint-Ouen-l'Aumône. Et en fait, à partir du moment où on a eu ces locaux, et c'est là que tout a vraiment explosé. Donc, de nombreux partenaires qui nous livraient des pâtes, du riz, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place.
Vous disiez tout à l'heure qu'avant tout ça, vous ne saviez pas ce qu'était un hôtel social. C'est sans doute le cas aussi de beaucoup de gens qui nous écoutent. De quoi s'agit-il, Anaïs?
Oui, en fait, ce sont des hôtels où l'État, grâce au 115, vous savez, quand une personne se retrouve à la rue, les personnes contactent le 115 et le 115 tente de leur trouver des places disponibles pour pouvoir dormir une nuit ou plusieurs nuits, selon les cas. Et du coup, les personnes ont un toit sous la tête pour une courte durée, mais du coup, elles n'ont pas à manger. Donc, quand on prépare à manger pour ces personnes-là, ça leur apporte déjà de la nourriture et puis un peu de réconfort. Et voilà. Et du coup, il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants. Mmh. Et c'est un peu ça, moi, qui m'a marqué surtout, c'est quand j'ai vu le nombre d'enfants qui jouaient dans le parking de l'hôtel. Parfois, certains n'avaient pas de chaussures, d'autres avaient des vêtements déchirés. Enfin, on était vraiment dans une misère qui était assez importante.
Vous n'êtes pas cuisinière, hein, Anaïs. Quel est votre parcours? Vous avez un emploi à côté?
Oui, alors je suis responsable clientèle pour une grosse société, sauf que je suis tombée malade il y a à peu près 10 ans d'une sclérose en plaques. Et du coup, je suis en invalidité de catégorie 2, ce qui signifie que je ne peux plus travailler. Mais je suis toujours salariée dans cette boîte.
Voilà. Donc ça permet d'avoir cette activité bénévole qui vous prend pas mal de temps, j'ai l'impression.
Exactement. Et du coup, ça me permet d'avoir une activité quand je vais bien. Et puis les moments où je dois être hospitalisée ou les moments où ça va pas, j'ai mes équipes qui prennent le relais sans souci.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Réseau est devenu une association d'envergure, hein, on peut le dire.
Oui, ça a bien grandi. Donc, on a commencé il y a 5 ans, au premier confinement. Le nom Réseau, l'association a été créée au bout d'un an. Et puis, moi, je m'efforce depuis ces 4 années à essayer de trouver de nouveaux partenaires, des financements, parce que tout ça, ça engendre des coûts. Donc, les coûts d'essence, les coûts des camions, des assurances, etc. Donc ça fait partie aussi de mes missions en tant que présidente d'association, c'est de trouver des nouveaux partenaires. Et aujourd'hui, on travaille avec de grosses enseignes qui nous livrent très régulièrement des produits frais, des produits secs, des produits d'hygiène, des jouets pour les enfants. Voilà, donc aujourd'hui, c'est c'est devenu quand même quelque chose d'assez grand, puisqu'on offre un petit peu plus de 1000 colis alimentaires par semaine.
Et vous faites aussi des maraudes, hein, vous distribuez ces colis directement auprès des personnes qui vivent à la rue ?
C'est ça, donc on a une partie qui est gérée ici dans le 95 pour les personnes qui sont envoyées par le conseil départemental, les assistantes sociales. On livre également les hôtels sociaux dans le 95 et dans le 78. Et tous les mardis de l'année, nous sommes à Gare du Nord. On travaille en partenariat avec la mairie de Paris où on offre 200 paniers repas pour les personnes sans domicile fixe.
De quoi votre association a-t-elle besoin aujourd'hui ? C'est le moment de lancer un appel.
Alors la première chose, j'aurais tendance à vous répondre à un plus grand local, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu restreint au niveau de la taille de notre local, donc parfois je suis obligée de refuser des dons, parce que j'aurais nulle part où les mettre. Et ensuite, ça serait des denrées alimentaires, puisque comme je vous ai dit, on fait 1000 colis par semaine, c'est énorme. Donc il nous faut des pâtes, du riz, des produits d'hygiène, notamment pour les bébés, il y a énormément de bébés, donc des couches, des lingettes, voilà.
Donc vous faites aujourd'hui deux choses différentes, hein, des colis qui aident à tenir toute la semaine, vous le disiez, et également toujours ces fameux plats cuisinés.
Oui, c'est ça. Tous les mardis, on a une équipe de bénévoles, ce sont des mamans qui cuisinent. Donc là, en ce moment, depuis 3 semaines, on fait des salades de riz géantes, donc pour entre 200 et 230 personnes, et qu'on accompagne avec les différents dons qu'on reçoit. Donc on reçoit par exemple des bananes de Rungis, on reçoit des bouteilles d'eau, on reçoit des desserts, des fromages, des yaourts. Voilà, donc on arrive à constituer quand même des repas assez garnis et assez sympas.
Et tout ça vient des partenaires dont vous parliez tout à l'heure, hein, les entreprises qui vous donnent leur surplus, c'est ça ?
Exactement, c'est du surplus où on a une enseigne qui, vous savez, quand un carton est abîmé et impropre à la vente, plutôt que le jeter, ils nous le donnent. Donc on récupère vraiment beaucoup de choses grâce aux entreprises. Et on fait également des achats à la banque alimentaire.
Avez-vous besoin de plus de bénévoles ?
On a toujours besoin de bénévoles. On travaille 7 sur 7, je dirais pas 24 sur 24, mais presque. Donc on a toujours besoin de bénévoles. On est à Saint-Ouen-le-Maune, dans le 95. On a des services civiques qui sont chez nous. Donc ce sont des jeunes de 16 à 25 ans qui viennent après l'école et qui bossent 24 heures par semaine avec nous. Mais oui, on est toujours en constante recherche de nouveaux bénévoles.
Si vous m'autorisez ce commentaire, c'est assez impressionnant, Anaïs, avec la maladie dont vous souffrez et dont vous nous avez parlé tout à l'heure, cette énergie que vous déployez pour cette association. Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va. Je crois que ça me fait du bien. Je me dis que c'est une bonne fatigue. Des fois, j'arrive au bout du bout, je me dis je peux plus, j'y arrive plus. Et puis, je retourne en maraude à Gare du Nord et puis ça me remet les idées en place et ça me dit non, c'est pas grave, repose-toi 2 jours et puis dans 2 jours, tu vas repartir. Et voilà, on essaie d'oublier la maladie. Donc parfois, elle se réveille, elle nous rappelle qu'on est malade et qu'il faut lever le pied un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, quoi. C'est mon bébé, cette association.
Oui, d'où l'intérêt d'avoir plein de monde, hein, pour prendre le relais quand ça va pas aussi.
C'est ça. Et puis, je suis entourée de bonnes personnes parce qu'elles ont conscience de mes problèmes physiques dus à ma maladie. Du coup, elles savent que je ne peux rien porter. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment une équipe de bénévoles qui est hyper investie. Et vous voyez, moi, quand je suis au dépôt, là, j'y suis actuellement. Je sais que les personnes, les bénévoles sont en train de préparer notre distribution de ce soir et que quand je vais rentrer, tout sera déjà prêt et prêt à être distribué aux familles qui font la queue.
Voilà, ça s'appelle Réseau, ça s'écrit R-E-S-O et c'est à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Un grand merci Anaïs Lazare.
Merci à vous.
Et bravo.
Merci, à très bientôt.
Bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
La Fondation de France est un partenaire des carnets de campagne. Elle nous signale régulièrement des initiatives qu'elle soutient. En voici une dans le Val-d'Oise, les petits chapitres. Chapitre, ici s'écrit en deux mots, hein, des petits chats qui font les pitres. Donc, il s'agit de mettre de la joie et de la légèreté dans une mission essentielle, donner accès aux livres dès le plus jeune âge. Bonjour Marie Besite.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la fondatrice de cette association qui est basée à Cergy. Comment est né ce projet ? Quel a été le point de départ ?
Il est venu suite à une mission que j'ai effectuée dans une école du Val d'Oise, où j'avais en charge à remettre à jour en fonctionnement la BCD, donc la bibliothèque de l'école. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait des enfants qui pouvaient être identifiés en classe comme perturbateurs, pas investis. Ils avaient un tout autre comportement quand c'était le moment où je leur lisais des histoires, où ils prenaient le temps de découvrir des livres. Donc j'ai senti déjà ce changement de position de l'enfant. Et après, je me suis aussi rendu compte que bien que Cergy et le Val d'Oise aient beaucoup, beaucoup de chouettes équipements culturels, c'est pas pour autant que les gens osent parfois pousser la porte. Donc nous, le projet, c'était un petit peu de se mettre en tant que passerelle, si vous voulez, entre certains publics dits peut-être éloignés pour différentes raisons de la lecture ou du plaisir de lire, vers les structures culturelles, donc bibliothèques, mais aussi tout ce qui peut être qui peut tourner autour de l'art, que ça soit le spectacle vivant, que ça soit des expos, que ça soit, enfin voilà quoi, c'est d'éveiller au maximum d'un point de vue sur la culture les plus jeunes.
Comment procédez-vous alors pour toucher les publics qui ne viendraient pas spontanément vers les livres ?
Bah, c'est nous qui allons vers eux. On peut intervenir, par exemple, au pied des immeubles, comme faire une petite bibliothèque, enfin plutôt lecture de rue. Enfin voilà, c'est nous allons vers les personnes.
Comment se déroulent vos ateliers ?
Alors nos ateliers, soit comme ça, on peut, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'une façon ponctuelle, mais donc pour nous c'est de mettre un cadre. Déjà, faut que ça soit plaisant, faut qu'on ait envie. On est sur de la lecture plaisir, hein. On est sur de la lecture bonheur, imagination. Donc pour nous le cadre aussi, faut que ça soit accueillant, qu'on ait envie de se poser. Et on immerge, enfin, c'est-à-dire qu'on vient avec le maximum de livres, parce que même si on fait des lectures à voix haute, ce qui compte pour nous c'est que l'enfant, dès le plus jeune âge, puisse rencontrer le livre par lui-même. C'est-à-dire, voilà, quand il commence à pouvoir se déplacer, qu'il puisse toucher, le mettre à la bouche, tourner les pages. C'est toute cette découverte qui, pour nous, est aussi très importante. Donc, on organise des ateliers parents-enfants aussi. En plus des interventions ponctuelles au pied des immeubles, on a d'une façon régulière des ateliers enfants-parents. Et là, on travaille avec les maisons de quartier pour toucher différents publics.
Finalement, l'ambition, c'est de dédramatiser le livre ?
Complètement. Moi, j'ai jamais vu, enfin franchement, un jeune enfant ou un enfant ne pas apprécier, voilà, une lecture, un livre. Mais c'est souvent parfois les parents qui ont des freins parce que ça peut représenter la lecture de l'école, même si c'est très intéressant. Mais voilà, la lecture devoir, la lecture obligation. Alors que nous, on veut vraiment le côté ludique. Le côté plaisir, le côté partage aussi beaucoup. On insiste beaucoup aussi sur que le parent s'investisse dans ce moment de partage avec son enfant.
Est-ce que vous avez un ouvrage de la littérature jeunesse qui est si riche à nous conseiller aujourd'hui, Marie?
C'est ça qui dure. Moi, j'ai beaucoup de mal à me réduire à un. C'est même dans mon assaut. Quand je dis je ramène quelques livres, elles ont toujours peur que j'en ramène une valise. À réduire à un, si on est vraiment sur le tout, tout, tout petit, je dirais les Lucie Félix.
Ah, Lucie Félix qui a gagné récemment le prix du Salon du Livre Jeunesse, d'ailleurs.
Oui, oui. Une personne avec qui, en plus, on a eu la chance de travailler. Hein, et moi, j'adore son travail, j'adore son approche, justement, de démocratiser le livre et qu'elle a su en faire un livre-jeu, vraiment adapté aux tout-petits. Par exemple, son livre Coucou, c'est suite à une résidence qu'elle a fait dans une crèche. Donc, elle adore passer déjà son temps à regarder, justement, comment un tout-petit agit et se déplace. Et c'est ça qui est intéressant, nous aussi, dans nos séances de lecture. C'est de voir comment l'enfant évolue, comment on manipule, ce qui l'intéresse. Voilà, quoi. Et surtout, ne pas s'offusquer quand un enfant ferme une page d'un livre qu'il n'a pas envie de lire du première page à la dernière page.
Les petits chats pitrent, c'est à Cergy, dans le Val d'Oise. Merci beaucoup, Marie Bezit.
Merci beaucoup, Dorothée, Barba. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Puis je voudrais vous remercier pour vos messages, chers auditeurs et auditrices. Vous avez été touchés, nombreux à être touchés par mon invité d'hier, Adama Camara, créateur de la Grotte Mobile, outil de lutte contre la violence, une cellule de prison aménagée dans un camion pour lutter contre les idées fausses qui circulent sur la vie carcérale, notamment sur les réseaux sociaux. L'émission d'hier, si vous l'avez ratée, est disponible en podcast sur l'application Radio France.